France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Une gastronomie que je n'avais encore jamais goûtée aujourd'hui, direction l'Iran.
Mosto labou, mosto khyar, parce que du coup, yaourt concombre, yaourt betterave.
Dans le bocal, c'est du citron noir d'Iran.
Ça, c'est l'odeur de l'Iran, les gars. On boit du thé à la cardamone. Ça, c'est l'odeur de l'Iran pour moi. Et ça, c'est mon enfance. Là, je vois des plats, je suis chez moi. C'est hyper bien, parce que c'est une cuisine qui ne demande qu'à être connue. Une cuisine raffinée. Vous avez vu comment c'est raffiné, les gars?
Très raffiné.
D'ailleurs, le safran, t'en trouveras dans tous les plats, le riz, mais aussi les desserts. J'ai pas pu tous les tester, alors je peux seulement te parler de cette coupe de glace rose et safran, évidemment. Des glaces maison aux saveurs surprenantes servies dans un jus de carotte. Et c'est pas du tout le jus de carotte que t'imagines.
Les peu de touristes qui vont là-bas, tout le monde veut que t'ailles dormir chez eux, quoi. C'est vraiment une culture de partage.
همه شما خیلی خوش آمد میگم در این برنامه On va déguster.
Et ça veut dire, en persan, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Et oui, dans 4 jours, ce jeudi 20 mars, les Iraniens et près de 300 millions de personnes des Balkans à l'Asie centrale et du Moyen-Orient aux rives de la mer Noire vont célébrer Nowruz, le nouvel an du calendrier persan. Une formidable occasion de percer les secrets de la cuisine perse avec nos deux invités du jour, Feridoun et Roshan Garagedaghi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Un père et son fils. Alors il y a Feridoun d'un côté, hein. On peut donner votre âge ou pas, Ferry?
Allez,
comme on dit.
On y va.
79 ans?
Voilà, c'est ça. Dans 3 mois, j'aurai 79 ans.
Vos amis, dans votre entourage, vous surnomment Ferry, c'est bien ça?
Oui, les intimes, oui.
Vous nous donnez l'autorisation de vous appeler comme ça pendant l'émission ou pas? Bon, c'est gentil.
Okay.
Et Roshan à vos côtés, c'est votre fils, vous avez 52 ans. Et vous faites tous les deux partie de la communauté iranienne de France. Vous avez signé à 4 mains un livre qui fait l'unanimité dans l'équipe dont on va déguster. Je préfère vous le dire.
Ah, c'est gentil.
Cuisine familiale d'Iran, les carnets de recettes d'une famille perse chez Solar. Avec les photos signées Géraldine Martin, c'est le stylisme de Marion Chibrar-Burdi. Et c'est un livre qui nous a tous emportés. On l'a absolument adoré. Et vous allez comprendre pourquoi, chers auditeurs et chères auditrices, pendant toute cette émission, on va découvrir les saveurs iraniennes grâce à vous. Vous allez nous raconter cette cuisine qui est assez méconnue en France, il faut bien le dire. Et vous allez même nous la faire goûter à travers, allez, 3 recettes. 3 recettes emblématiques de votre cuisine. Elles font partie du voyage. Zazie Tavitsian et Manon Fleury. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi, je suis déjà allée fêter Nowruz, figurez-vous, mais avec une mère et une fille. Je suis allée chez Mitra et Minou Sabahi, des superbes cuisinières. Et on a aussi parlé de transmission.
Merci Zazie, on a hâte de découvrir. Vous avez pris un peu d'avance hein, sur Nowruz, on l'a
J'ai
vu.
J'ai pris un peu d'avance, mais on peut le fêter plusieurs fois apparemment.
C'est ça. Et Manon, bah, en parlant de coup de cœur, tiens allez, je me permets hein, quand même une indiscrétion. Quand vous avez feuilleté le livre de nos invités, vous m'avez écrit par mail, Manon, le livre est vraiment magnifique et hyper inspirant. J'avais envie de faire toutes les recettes.
Oui, c'est vrai. Il a fallu choisir quelque chose. Et de mon côté, il sera question de riz croustillant et d'un ustensile bien connu, mais détourné de sa fonction habituelle.
Voilà, exercice de style par notre chef étoilé Manon Fleury. On va déguster sur les ondes, mais on va déguster également en podcast et on va déguster sur le web avec nos infos, nos recettes, nos coups de cœur. Retrouvez tous les contenus de notre émission sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Cette omelette que je vous ai apportée, ou plutôt cette espèce d'épaisse galette d'herbe aux œufs, ou plutôt d'œufs aux herbes, est un coucou sabzi. C'est une recette archi connue en Iran. On le mange traditionnellement le 21 mars, lors de la fête de Nowruz, le nouvel an du calendrier persan. Alors il existe toutes sortes de coucous en Iran. Le coucou sib zamini aux pommes de terre, le coucou morgue au poulet, le coucou badejnam aux aubergines. Et ce coucou sabzi, je l'adore parce qu'il fait partie de la grande famille des omelettes non roulées, donc moins technique. Et j'ai mis surtout de l'épine vinette, qui est cette petite baie typique de la cuisine persane.
Quand notre amie et chroniqueuse Elvira Masson déclarait sa flamme au coucou sabzi, une omelette aux fines herbes ou des fines herbes aux œufs, ça c'est ce qu'on va voir. C'était dans notre émission On va déguster en mai 2021 et le mois de mai est important car cette recette est une célébration du printemps et j'en profite pour remercier Elvira Masson qui n'est pas là aujourd'hui mais qui nous a glissé à l'oreille l'idée de cette émission car elle adore votre livre une de plus, et elle a même tourné une savoureuse séquence culinaire pour la télévision avec vous. Alors, coucou Sabzi, vous nous l'avez apporté, Ferry, on vous en remercie, on va déguster ensemble. Ne révélez pas exactement le mélange d'herbes, parce qu'évidemment, je vais demander à Manon et Zazie de nous citer le plus d'herbes possible dans, dans cette omelette, mais en gros, on est d'accord pour dire que c'est une recette printanière.
Tout à fait, c'est un plat incontournable de Nowruz, hein, donc le nouvel an iranien. Pas seulement, mais c'est surtout à cette occasion qu'on le mange. Souvent, il se met à côté d'un autre plat, qui est le plat principal, qui est sabzi polo, qui contient les mêmes herbes intégrées dans le riz. Elles sont présentées côte à côte.
L'omelette aux herbes avec le riz aux herbes. Et la verdure, c'est ce qui symbolise Roshan, la Renaissance, le printemps.
Absolument, absolument. C'est toute la symbolique du Nowruz. Hein. C'est pour ça qu'on le célèbre le premier jour du printemps. D'ailleurs, cette année, ce sera très précisément le jeudi 20 mars, 10h01. Si on a souhaité la bonne année à des amis iraniens. C'est la fête du renouveau du printemps. Et c'est pour ça qu'effectivement, on mange des plats très herbacés à cette occasion. Et puis, on a d'autres traditions. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle.
Mais bien sûr qu'on va en parler, mais pour l'instant j'ai sous la main deux gourmettes, évidemment, qui adorent en plus les fines herbes, je connais leur profil gastronomique, Zazie et Manon. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques herbes fraîches qui sont présentes dans cette omelette?
Alors, persil. Ouais, la plus facile c'est le persil. Après, je pense qu'il y a des herbes qui sont acides, parce qu'il y a une très belle acidité.
Non, ça c'est les baies d'épines vinettes.
Ah, c'est l'épine vinette. Et peut-être des épinards?
Non.
C'est une petite amertume.
Il n'y a que des herbes. Ouais.
Que des fines herbes.
Et il y a de la menthe? Pas du tout. François Rélus, vous ne voulez pas trouver une petite herbe?
Moi, je sens une note un peu anisée, genre aneth ou...
Bravo, aneth. Ça, c'est un des quatre, oui.
Coriandre, c'est juste.
Coriandre, ok.
On en a trois.
Une de plus.
Il nous en manque une.
Le souffle.
Oui. Ciboulette.
Ah. Là, il y a quatre fines herbes,
c'est bon.
Mais ce n'est pas la Bible, hein. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre trois ou cinq, hein. Donc chacun fait à sa façon.
Mais on est d'accord que c'est toujours des herbes aromatiques, ce n'est pas justement une feuille comme des blettes ou des épinards, c'est toujours une
voilà, herbe fraîche. Aromatique, okay. Ce qu'on appelle fines herbes.
Okay. Oui.
Qu'est-ce qui croque légèrement, là? Il y a également
un oléagineux. Alors, tout ça, c'est facultatif. Hein. Mm-hmm. Aussi bien les épines vinettes, que tout le monde ne met pas, que les noix, les morceaux de noix sont aussi, c'est ma façon de faire, il y en a d'autres qui le font aussi, mais bon.
Et on imagine quand même une omelette avec beaucoup d'herbes, finalement pas tant d'œufs que ça, et une texture particulièrement mousseuse, mais il y a quand même un goût très prononcé, très herbacé. C'est délicieux.
On dirait presque que c'est cuit vapeur, tellement c'est... Il y a un côté extrêmement moelleux, très...
Et la particularité, c'est que c'est cuit au four aussi.
Bravo. C'est-à-dire que traditionnellement, on le fait à la poêle. Dans l'ancien temps, et encore aujourd'hui, beaucoup le font comme ça. Mais moi, je préfère le faire au four. Hein. Et non seulement c'est moins gras, en plus, on peut le faire avec le moule qu'on veut, tel que vous voyez là. Donc, des portions individuelles, etc. C'est au four qu'on peut le faire.
C'est un pur... régal, c'est vraiment délicieux. Ouais. Allez-y, auditeurs et auditrices, faites du coucou sabzi à la maison.
Facile.
Même si vous n'avez pas de racines iraniennes, c'est facile, c'est délicieux, c'est nourrissant. C'est accessoirement végétarien. Pour trouver de l'épine vinette Roshan, alors c'est pas obligatoire, on l'a compris, mais c'est cette petite baie qui apporte ces notes acidulées. Épicerie iranienne à Paris, en région.
Pas seulement épicerie iranienne, les épiceries orientales maintenant de plus en plus ont ce type de produit. Et effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a maintenant beaucoup d'épiceries iraniennes qui proposent en ligne, tout simplement, de livrer les produits, notamment la fameuse épicerie Escan de la rue des Entrepreneurs, qui est vraiment la grande épicerie de référence, et je les salue. En même temps, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en ligne avec eux.
Nowruz est fêté par tous les Iraniens d'Iran, mais également les Iraniens de toutes les diasporas, à Londres, à Paris, aux États-Unis, au Canada. Vous nous confirmez que vous avez des souvenirs, Roshan. Vous êtes né en France, hein?
Oui, absolument.
Mais vous avez des souvenirs de Nowruz qui étaient fêtés chaque année, religieusement, j'ai envie de dire.
Oui, religieusement, je ne sais pas, mais en tout cas, de façon très festive. Effectivement, nous, on a toujours fêté Nowruz dans notre famille, en même temps que Noël, le 25 décembre, en étant que le Nouvel An, le 31 décembre, et en tant que gamin, c'était juste absolument génial, parce qu'imaginez, trois mois après Noël, on avait droit à une nouvelle distribution de cadeaux, parce que c'est la coutume à Nowruz aussi de distribuer des cadeaux. Et donc voilà, j'en ai gardé un souvenir très très festif, c'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote, on a des traditions autour du Nowruz hein, qui sont assez, assez fortes, notamment il y a la tradition de ce qu'on appelle le Çarşamba Suri, qui est le mercredi du feu, donc qui est le mercredi qui précède Nowruz, où on a coutume de faire faire un feu et de sauter par-dessus le feu pour se purifier, entre guillemets, de l'année passée, prendre de l'énergie pour l'année à venir. Et je me souviens très bien que chez mes parents, à l'époque, il y a bien longtemps cela, on avait pris une grande casserole, on avait été sur le balcon, on avait fait brûler dans la casserole des journaux, et puis toute la famille à tour de rôle, y compris les non-iraniens de la famille, avaient sauté au-dessus de la casserole. Alors pour le petit enfant que j'étais à l'époque, c'était très rigolo, très génial. Amusant de voir qu'on essayait quand même de maintenir ces traditions. Ouais.
Nowruz, l'origine, l'étymologie du mot, Now signifie nouveau, c'est ça ?
Nouveau, exactement, littéralement, c'est-à-dire le jour nouveau. Jour, c'est jour.
Ouais, c'est ça.
Jour,
ouais. Et ça tombe cette année, le jeudi 20 mars. Alors, il y a des auditeurs et des auditrices qui nous demandent pourquoi, parce que la fête du printemps, c'est plutôt
en fait,
21 mars.
Ça dépend de l'équinoxe.
Hein. Voilà.
L'équinoxe, c'est un instant précis donc, que tout le monde, sur tout le globe, ça se passe en même temps. Mm-hmm. Mais seulement l'hémisphère nord, c'est le passage de l'hiver vers le printemps. Donc nous, en fait, mais les pauvres qui sont dans le sud, là, ils rentrent dans l'automne.
C'est ça.
Alors, je ne sais pas comment les Iraniens d'Australie, par exemple, ils vont fêter ça cette année. Ils vont être un peu embêtés.
Bien sûr, on va continuer à célébrer Nowruz avec quelques jours d'avance. On va découvrir, bien entendu, d'autres saveurs iraniennes avec vous. C'est Laurent Thomas qui est derrière la console, avec Guillaume Roux à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation et la programmation de l'émission. Pour fêter les saveurs iraniennes, mise en ambiance musicale assurée par notre ami Chewbacca, avec un grand classique de la musique iranienne datant de 1971. Je vous laisse, Ferry, si vous voulez bien, le soin d'annoncer la chanson qu'on va écouter.
Et je dis ça en français ou en persan ?
Comme
en
vous voulez.
Persan. Donc le chanteur s'appelle Kourosh Yarmoyi et la chanson s'appelle Goleyar. شب تو موهای سیاه خونه کرده دو تا چشمون سیاه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه بغز از موجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دو تا چشمم بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفته دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده
Cuisine familiale d'Iran, de Feridoun et Roshan Garagedaghi, père et fils. C'est un très beau livre qui est à la fois un panorama complet de la cuisine de l'Iran, mais aussi une histoire de transmission et d'héritage, une histoire de famille finalement. Alors, Ferry, vous êtes, je crois, ingénieur à la retraite. Vous êtes arrivé en France dans les années 60.
64, oui.
C'est ça. Vous poursuiviez en France des études supérieures à la suite d'une scolarité au lycée franco-iranien de Téhéran.
Exact, voilà.
Et la France est devenue votre pays d'adoption ?
Ça fait plus de 60 ans que je suis en France.
Et Roshan, 52 ans, votre fils, vous êtes né en France ? je crois savoir que c'est à votre initiative qu'est né ce livre à quatre mains. C'est pas papa, en fait.
C'est vrai, effectivement, je suis très heureux de pouvoir effectivement présenter ce livre encore aujourd'hui avec vous. Ce livre, c'est un livre de cuisine iranienne, comme vous l'avez compris, qui est directement inspiré par les recettes quand même rédigées et transmises par mon papa Ferry, qui est avec nous aujourd'hui. Et je dirais que, comme je l'explique un petit peu dans la préface, il y a deux sujets au cœur de ce livre. Il y a d'une part la cuisine iranienne, en elle-même bien sûr, une cuisine que je trouve moi personnellement savoureuse, authentique, même
coloré,
si,
parfumé,
même si le mot est un peu galvaudé, mais bon, authentique, j'aime bien m'y accrocher. Mais une cuisine encore trop peu connue, je trouve, notamment en France, avec très peu de restaurants et quasiment aucun livre d'édité en cuisine, en français, sur la cuisine iranienne. Mais le deuxième sujet vraiment qui me tient à cœur dans ce livre, et c'est le cas de le dire, c'est le rapport justement aux origines, à la famille, à la transmission familiale, justement à la croisée des deux mondes entre l'Iran et l'Occident. Et ça, c'est peut-être lié à mon histoire personnelle.
Bien sûr.
Puisque moi, voilà, en tant que franco-iranien, j'ai grandi en France, je suis né en France, d'une famille complètement iranienne. Et j'ai toujours vécu dans cette double culture. Et malgré l'éloignement avec mon pays d'origine, puisque finalement, j'ai eu très peu l'occasion de retourner en Iran ou d'aller en Iran. Et puis malgré l'éloignement avec une grande partie de ma famille, puisque j'ai une grande partie de ma famille maintenant qui est à l'autre bout du monde, qui est au Canada en l'occurrence. Et je dirais que toute ma vie, j'ai toujours été très attaché à essayer de me connecter autant que possible avec mon iranité. J'aime bien ce mot. Et quelque part, ce livre, c'est une façon parmi d'autres de le faire.
Et votre lien au pays de vos racines, bah, il est notamment culinaire, comme quoi la cuisine reste cette façon de rester attaché au pays quitté ou au pays des ancêtres. C'est vous, Ferry, qui avez vraiment codifié toutes les recettes familiales. On est vraiment dans la tradition. On n'est pas dans une cuisine perse ou iranienne réinterprétée. On est dans les belles recettes de famille, au pied de la lettre, les riz, les ragoûts. On l'a vu, cette magnifique omelette aux fines herbes, le coucou sabzi. Et vous faites œuvre de vulgarisation, car, vous le disiez, Roshan, la cuisine iranienne, pour les Français, est une espèce de trou noir, assez méconnu. Comment vous l'expliquez, cette méconnaissance? Est-ce que c'est que, la situation
en fait,
géopolitique?
C'est ça, il y a très peu de relations. Enfin, disons, d'une part, le tourisme, déjà, en Iran, est aujourd'hui inexistant. Donc, ça fait 45 ans, 47 ans... Il n'y a vraiment rien. Et puis même avant, c'était peu développé. Puis dans l'autre sens aussi, il y a très peu d'Iraniens qui sont venus en Occident travailler ici. Mais avant la révolution, il n'y avait carrément rien. Après, il y en a qui sont venus.
Il y avait vous quand même, hein, Ferry.
Ah oui, mais ça c'est... c'était effectivement... On était très peu nombreux. Et en France en particulier, il n'y en a pas beaucoup d'Iraniens. Comparativement, en Angleterre, il y en a plus. Hein. Deux ou trois fois plus.
Et oui.
On a une communauté qui Roshan. Est réduite. Hein. Enfin, en même temps, si vous regardez juste la diaspora, c'est-à-dire les gens qui sont nés en Iran et qui maintenant sont en France, ça représente tout au plus quelque chose comme 25 000 personnes. Ce qui est très très peu si vous comparez effectivement, comme le dit mon père, à d'autres pays. Alors notamment les États-Unis, par exemple, vous avez une ville comme Los Angeles. Vous savez, on l'appelle même Téhéran-Angeles. Tellement il y a d'Iraniens qui y vivent, ou d'autres pays comme le Canada, où d'ailleurs c'est pas pour rien qu'une grande partie de notre famille est installée là-bas. Donc forcément, ça n'aide pas à diffuser, je dirais, la cuisine ici en France, en l'occurrence. Il y a quelques limites.
Précisons que l'essentiel de la diaspora iranienne en France, et notamment à Paris, se situe dans le 15e arrondissement. C'est là où vous habitez, je suppose,
Ferry ? Non, j'habite pas dans le 15e.
Ah, pardon.
Ma tante habite là-bas. Ma tante habite dans le 15e.
On est du côté de la rue des entrepreneurs ?
C'est vrai. Il y a une bonne partie là-bas, oui.
Et il y a d'ailleurs des épiceries, des restaurants qui sont très très concentrés dans cette partie du 15e arrondissement, Roshan.
Oui, François Régis, si vous me permettez, justement, je voulais revenir sur ce fait, effectivement, ce phénomène, le fait que cette cuisine est assez peu connue encore en France et dans certains pays occidentaux. Parce que pour moi, ça reste aussi un paradoxe dans le sens où, quand même, on a pu observer depuis un certain nombre d'années un engouement de plus en plus fort vis-à-vis de l'Iran, d'un point de vue culturel, notamment en France.
Le cinéma.
Ça date absolument du cinéma, notamment des années 90, avec Abbas Kiarostami, qui a fait des films absolument prestigieux. Et puis, dans la foulée, il y a eu toute une série de réalisateurs qui ont gagné également beaucoup de prix. Et donc, ça a énormément aidé à faire connaître l'Iran d'un point de vue artistique, d'un point de vue culturel. Donc, il y a d'un côté un engouement, mais de l'autre côté encore, il y a encore, je crois, beaucoup de marge pour faire connaître cette cuisine. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on soit ici avec vous aujourd'hui.
Et ben justement, on va essayer de l'approcher pas à pas, cette cuisine. Alors, soit on la connaît pas du tout, soit on véhicule des clichés sur cette cuisine. On va essayer de définir la cuisine iranienne par ce qu'elle n'est pas, si vous voulez bien. Très souvent, on compare la cuisine iranienne ou on dit que la cuisine iranienne fait partie des cuisines arabes. Et là, on commet un sacré impair.
Oui, on dit arabe ou indien aussi. C'est-à-dire, l'Iran est entouré par, d'un côté, le Pakistan et l'Inde, et de l'autre côté, c'est des pays arabes et la Turquie, et puis il y a l'Azerbaïdjan, etc. Bon, c'est vrai que dans tous ces pays environnants, le goût est très pimenté en général. On utilise beaucoup d'épices fortes. Et ça, c'est vraiment une exception en Iran, c'est le contraire.
C'est une cuisine douce.
Douce. Les épices qu'on utilise, c'est le safran, le curcuma, la cannelle, cardamome, que ce soit le plat qui soit sucré ou le dessert. Un peu moins le gingembre, un peu moins le noix de muscade. C'est tout juste si parfois on utilisait un peu de poivre, mais très peu.
Deuxième cliché qui peut être véhiculé autour de la cuisine perse, c'est qu'on pense que c'est une cuisine méditerranéenne, et en fait, pas vraiment.
Non. Disons, sur le plan géographique, il y a eu beaucoup de mélanges entre l'Iran, cette partie indo-pakistanaise, et puis l'Iran, la Turquie, etc. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins prises d'un côté ou de l'autre.
Hein. Par exemple, l'huile d'olive, la tomate, le poivron ont été introduits relativement tardivement.
Oui, oui,
en fait.
19e ou 20e, début 20e siècle.
Oui, donc c'est très récent. Il n'y a pas tant d'huile d'olive que ça dans la cuisine iranienne.
Voilà. Et on a très peu de poissons aussi dans nos plats, à part justement pour le plat du Nowruz, où là, c'est peut-être l'exception.
C'est un paradoxe, oui.
C'est l'exception, et c'est là où on va servir effectivement le riz aux herbes avec un poisson.
Ferry.
Si vous permettez, il y a une autre particularité, vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, c'est que l'Iran, il n'y a pas un pays où on aime tellement le goût acide, acidulé.
Bah on l'a vu d'ailleurs, hein, avec l'épine vinette.
Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que si, disons, l'ingrédient acidulant ne se trouve pas dans le plat, on le mange à côté sous forme d'un condiment de légumes marinés au vinaigre, qu'on appelle toshi. Mais souvent, dans le plat, déjà, il y a pas mal d'éléments acidulants, comme, par exemple, le verjus, le jus de raisin vert, le jus de grenade. Les grenades d'Iran sont très acidulées. Et les citrons séchés, limo-amoni, on appelle.
C'est le citron noir qui a beaucoup de succès auprès des chefs français.
Noir au brun.
D'accord.
Plutôt.
Cuisine végétale, cuisine acidulée, mais c'est votre cuisine, en fait, Manon Fleury.
Moi, j'adore la cuisine iranienne. Et effectivement, je me retrouve dans ce goût pour les choses acidulées et cet équilibre entre, souvent, le côté sucré et acidulé et parfumé. J'adore ça.
Passons ensemble, si vous le voulez bien, en revue quelques fondamentaux, quelques piliers de la cuisine iranienne à commencer. Alors, on va en parler, y compris avec Zazie et Manon, bien évidemment, mais on ne peut pas faire sans. C'est la céréale phare, la céréale star iranienne.
Le riz.
Eh oui.
Le type de riz qu'on mange, c'est un riz blanc de long grain, que les Indiens utilisent aussi.
Mais vous parlez du riz basmati ?
Alors, il ressemble beaucoup au riz basmati. Et qu'on l'utilise, même en Iran aujourd'hui, je sais qu'on importe énormément de riz basmati. Mais seulement, la façon de le faire est différente. Il y a toujours, dans la cuisson chez nous, une phase vapeur. C'est-à-dire, même si une partie se fait à l'eau bouillante, en deuxième partie, on jette l'eau et puis on passe à la phase vapeur. Et ça fait que, en même temps, les grains ont une belle allure et en même temps, ils ne se collent pas et ça dégage aussi une arôme qui est un peu spéciale. Donc ça, c'est vraiment iranien.
Ça, c'est vraiment la religion iranienne.
D'ailleurs, la technique de cuisson du riz a été vraiment bien développée par mon papa dans le livre, de façon très minutieuse.
J'ai effectivement affronté ces pages. Non, mais il y a un protocole très précis, des écoles de cuisson différentes, des recettes différentes, et c'est peut-être bien le livre que j'ai vu sur la cuisine perse iranienne le plus précis sur le sujet. Bravo pour ça. Vous avez servi...
C'est le côté ingénieur.
Mais je vois. Ah oui, ça, on peut dire que vous êtes plutôt du genre...
Scientifique.
Pointilleux.
Pinailleur.
Pinailleur, j'osais pas le dire. Mais alors, vous nous avez servi, Ferry, Un remarquable riz, il faut presque des lunettes de soleil pour le regarder.
Ouais, c'est la folie.
Tellement il est incroyable, il est ensoleillé, doré, orangé, parfumé, ça croque, c'est délicieux. Allez, petits commentaires, et Zazie.
C'est tout ce qu'on a dit depuis le début. Déjà, on voit effectivement ces grains qui sont bien distincts. Il y a de la pistache et il y a ce côté acidulé avec des zestes d'orange, certainement.
Des zestes d'orange, de la carotte aussi.
Oui, oui.
Des amandes.
Du pistache.
Oui, c'est vraiment un truc génial.
Comment vous l'appelez ? Moi,
c'est chirimpolo, c'est-à-dire le riz sucré, si on traduit...
C'est le riz qu'on sert au mariage, traditionnellement.
Chirimpolo, ouais. C'est un riz de célébration.
Oui, alors on le trouve en dehors des mariages, mais traditionnellement, il est proposé
alors,
pour
il y a une chose qui est ici spéciale par rapport à la tradition pure. Mm-hmm. Parce que dans la tradition pure, le poulet est intégré dans le riz. Mais je trouve que là, ça devient un peu sec. C'est-à-dire, on peut faire mieux... Et c'est ce que je propose aussi dans le livre, c'est-à-dire sortir la volaille du riz et que faire une sauce un peu à la française.
Oui,
avec
c'est
sa
ce
sauce.
Que j'allais dire, on dirait presque une sauce de poulet cocotte grand-mère.
Oui, c'est ça.
Et vous avez mis du vin blanc dedans.
Ah, bravo, bravo, comment vous avez su
bah, ça sent le vin blanc.
Comment vous avez su ça
et il va plus, faire une chef étoilée.
Mais c'est pas n'importe quel vin blanc que j'ai mis dedans, parce que il fallait en même temps que cette sauce s'accorde avec ce riz. Donc là-dedans, d'abord, dans cette sauce, il y a des carottes qui sont mixées pour donner la consistance et tout ça. Et puis, il y a un vin blanc que j'adore avec ce repas, c'est le Gewürz alsacien.
Oui.
Qui est aromatique et qui va bien à cardamome. Et puis, au goût sucré du riz, ce vin... Gewürztraminer, qu'on peut aussi boire à table hein, en même temps, hein. C'est pas interdit. Et c'est vraiment une merveille.
Bravo pour ce chirimpolo qui est absolument remarquable et dont on retrouve la recette sur franceinter.fr.
On peut encore faire mieux.
On va déguster.
Si vous utilisez des volailles que vous mangez pendant les fêtes, je pense par exemple, des cailles, par exemple, des ossets farcis au foie gras, avec ça, ça fait un feu d'artifice. Hein. C'est génial. C'est un mariage franco-iranien absolument exceptionnel.
On trouve également dans votre livre Ferry et Rochan, c'est carrément un tableau de Pollock. Moi, je connais cette recette parce que je l'ai déjà goûtée à plusieurs reprises, même si je suis très humble en matière de cuisine iranienne. J'ai jamais mis les pieds dans votre pays natal. Ouais. Toutefois, ce riz taché de rouge...
C'est le Albalou Polo,
c'est le griotte.
Le riz au griotte. On parlait justement de notes acidulées, à la fois sucrées, fraîches. Où trouver des griottes en France?
Par chance, je ne sais pas pourquoi, parce que les Français n'en mangent pas beaucoup. Je ne vois pas des recettes de cuisine avec des griottes. Mais il y a un magasin, on peut le nommer?
Bien sûr.
Il y a la chaîne Picard,
ah oui,
qui, depuis que je suis... Enfin, depuis qu'ils sont nés, parce qu'ils sont nés bien après moi. Ils ont ce produit.
On trouve donc des griottes surgelées chez Picard. Bonne nouvelle.
Exactement, et tout le temps, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture.
C'est parfait. L'un de mes riz favoris, si vous me permettez. C'est un peu ma Madeleine de Proust, dans le sens où vraiment je l'adore. Et ma tante qui est au Canada et que je vois assez rarement à chaque fois, maintenant ça fait de nombreuses années qu'on se voit, elle me prépare ce riz avec un poulet mariné comme ça, grillé. Et voilà, je me régale de ce riz, c'est vraiment...
Et la prochaine fois, je m'invite à votre table, Rochan, évidemment, à Albalou Polo.
Albalou Polo, oui.
Avec l'accent, redites-moi.
Albalou Polo.
Albalou Polo.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie Tavitian, alors, on le sait déjà, hein, vous avez pris quelques jours d'avance pour célébrer Nowruz et vous êtes allée cuisiner et préparer ce nouvel an persan en famille.
Oui, je suis allée cuisiner avec Minou Sabahi, qui est chef itinérante à Marseille, et sa mère Mitra, qui est une excellente cuisinière. Je leur avais demandé de me préparer leur repas qu'elles dégustent ensemble à Nowruz. Je les ai retrouvées un matin chez Pega, à Bagnolet. Mm-hmm. Pega, c'est la plus petite sœur de Minou qui nous prêtait sa cuisine pour l'occasion. Quand je suis arrivée, ça sentait déjà extrêmement bon. Minou était en train de moudre des épices sous les yeux et conseils de sa mère Mitra. Mitra, elle est partie d'Iran en 1994, elle avait 25 ans. Elle est partie avec son mari et ses trois fille, dont Minou qui est l'aînée et qui avait 6 ans. Je lui ai demandé si elle se souvenait quand et comment elle avait appris à cuisiner.
À mon époque, on commençait très tôt, surtout les filles cuisinaient beaucoup. Des plats très simples, de poulet, de riz, des sortes de soupes qu'on appelle hash en Iran. C'est avec pas mal d'herbes, légumes sèches. Au moins deux, trois fois par semaine, on le prépare. Manger ensemble, c'est la joie, c'est une fête aussi. Quand on aime quelqu'un, on donne tout ce qu'on a, surtout manger.
Moi, j'ai appris de ma mère en l'observant. C'est pas forcément quelque chose qui... Elle m'a dit, viens, Minou, je t'apprends ça. Mais quand on est arrivé en France, c'était une nécessité que je relaie ma mère en cuisine parce que je suis l'aînée de la famille et que mes parents travaillaient beaucoup. Et puis parce que j'avais vraiment une très grande curiosité. J'aimais bien la regarder. J'observais tout ce qu'elle faisait, en fait. Même quand elle se maquillait, je restais derrière la porte et je la regardais des heures. Et c'était pareil pour la cuisine. C'est sûr qu'il y a des gestes qui sont des gestes de mimétisme de ma mère. Ce que je remarque surtout, c'est cette manière d'habiter la cuisine quand je cuisine des plats iraniens, comme si je l'invoquais ou j'invoquais ma grand-mère. Je vais reproduire des souvenirs que j'ai de leur dosage, essayer d'avoir vraiment le goût parfait des choses quand tu les manges, qui sont faites par une personne que tu aimes et que c'est absolument délicieux. Tu veux te rapprocher au plus de ce goût-là et c'est surtout par l'esprit que je les invoque. Et je ne sais pas par quelle magie, pour moi, ça marche parfaitement bien.
Effectivement, je peux témoigner que ça marche parfaitement bien. Minou et Mitra fêtent toujours Nowruz en famille. Mitra me racontait qu'elle se souvenait qu'en Iran, un mois avant le Nouvel An, tout le pays vivait au rythme de Nowruz, avec vraiment cette atmosphère d'un grand renouveau dont vous nous parliez. Elle se souvient, Mitra, des tapis qu'on nettoyait dehors, des nouveaux vêtements qu'elle allait acheter, et bien sûr de la cuisine que l'on faisait en famille, essentiellement entre femmes à l'époque. Minou, même si elle a quitté l'Iran tôt, se souvient aussi des goûts de son enfance, comme celui de la lavashak, la pâte de fruits. C'est des fruits qu'elle cueillait dans les arbres du jardin avec les enfants et que sa grand-mère cuisait dans des gros chaudrons sur du feu avant de les faire sécher au soleil. Minou a d'ailleurs décidé de documenter cette cuisine iranienne, des maisons, des marchés et des familles en sillonnant l'Iran. Elle a pour projet d'en faire un livre.
Ouh, on a hâte de le feuilleter.
Ouais, très très hâte de le lire. Mais revenons en cuisine où je lui ai demandé ce qu'elle allait nous préparer.
Alors là, on va cuisiner vraiment le plat emblématique du Nowruz, sabzi polo barmahi, riz basmati cuit avec des herbes fraîches. Et ensuite, on a du bar, on va frire.
Et là, vous avez versé le riz dans de l'eau bouillante, jusqu'en haut de la casserole, quoi.
Exact. Il faut que le riz puisse danser dans l'eau.
Et comment on dit en farsi que le riz danse ?
Dermirs. Quand il chante, c'est bon. Mais là, il est en train de danser.
Oignons nouveaux, ciboulette, coriandre, l'ail, un peu d'aneth.
J'adore ces odeurs-là, pour moi, c'est ma mère. C'est notre cuisine, c'est ma maison. Souvent, les gens me demandent, c'est quoi un bon restaurant iranien ? Je dis, bah, c'est chez ma mère. Là, elle est en train de moudre le safran.
Donc là, il est égoutté.
Là, on va mettre le tadik.
On a pris une portion de riz uniquement pour façonner le fond du plat. On va saisir en fait ce riz avec un peu d'huile neutre, du safran. Quand on va renverser la casserole, ce sera donc le tadik qui sera au-dessus comme un gâteau de riz. Et ça, on l'assaisonne à part.
Le fond de riz, donc le tadik infusé au safran, et là vous versez par-dessus le reste du riz avec des herbes. Donc vraiment beaucoup d'herbes en fait, une couche de riz et une couche d'herbes quasiment équivalente au riz.
Oui.
Ensuite il va cuire à l'étouffée.
Exact.
Et ça va cuire combien de temps à peu près ?
Une demi-heure, 40 minutes.
Vous avez réouvert la casserole pour mettre au-dessus des gros morceaux de beurre qui vont venir descendre et s'infuser jusqu'en bas.
Exactement.
Pendant cette cuisson du riz, nous, tu es en train de battre des œufs, pour quoi faire ?
Pour la panure à l'anglaise du poisson. Dans la farine, on assaisonne avec des épices. Il y a du gingembre, il y a du paprika, je pense que t'en as mis. Qu'est-ce que t'as mis d'autre ?
Poudre d'ail.
Poudre d'ail, sel, poivre, curcuma.
Et un peu de safran.
Et là, elle me demande, est-ce que je mets un peu de safran ? Je lui dis, ouais, vas-y, mets du safran, ça va être très bon.
Minou, tu vas aussi ajouter un petit jus d'orange amer.
Comme tu sais, le citron sur le poisson, eh ben nous, on assaisonne avec du jus d'orange amer. C'est aussi très spécifique au Nouvel An.
Tu t'es pas contentée de tout ça, c'est que tu as aussi préparé des desserts.
Ça s'appelle Noon Belenji, c'est avec de la farine de riz, de l'eau de rose, de la cardamome, Il y a un jaune d'œuf pour lier. C'est un gâteau très traditionnel au moment de Nowruz qu'on accompagne d'un bon verre de thé.
Alors le riz est prêt. Comment on sait qu'il est prêt?
L'odeur.
Alors?
Parfait, parfait, parfait. Goûte, goûte. Ça, il faut le manger avec les mains. Nushajan.
C'est notre formule pour dire bon appétit, ça veut dire que ton âme soit nourrie.
Est-ce qu'il y a une formule aussi pour se souhaiter la bonne année?
Nowruz Pirouz, Nowruz etan mubarak.
Ça veut dire le jour nouveau vaincra.
Alors, c'était... Okay. Vous connaissez l'expression, j'imagine. Alors, c'était délicieux, vraiment. En fait, ce plat, c'est un monde à lui tout seul. Il y avait la fraîcheur des herbes, les saveurs du safran, le riz moelleux avec le fameux tadig, la croûte. Sur la table, il y avait aussi une omelette aux herbes et un fromage frais avec du moussir infusé dedans. Mm-hmm. Le moussir, c'est une variété d'ail que je vous ai apporté ici. Donc là, elle est séchée. Je l'ai faite infuser un peu. Et ensuite, je l'ai mis dans le fromage grec que vous avez devant vous. Mm-hmm. C'est très aillé. Hein. Je suis un peu... Voilà, j'en ai mis beaucoup pour que vous sentiez bien l'odeur de cet ail qui est assez, particulier. En règle générale, d'ailleurs, on trouve souvent du fromage frais parfumé avec des herbes. Ça dépote. Hein. On trouve souvent ce fromage frais aussi à côté des repas. C'est Minou qui me racontait ça. Et puis, je vous ai aussi apporté ces petits gâteaux Noun Berenji. C'est des sablés à la farine de riz parfumés à la rose. Je vous ai mis la recette sur le site. Vous allez voir, c'est aussi assez exceptionnel en bouche.
Oh,
si vous voulez goûter Feridoun et Rochane, là, ils sont devant vous.
C'est un régal. Merci beaucoup. Et Zazie, pour les Marseillais qui veulent fêter Nowruz, Minou participe à un événement à Marseille, justement.
Oui, elle organise même cet événement. Ce sera un concert à la Villa Medjé avec des musiciens iraniens. Il y aura aussi une exposition de photos et des mises en bouche et poissons par Minou. Et c'est le dimanche 23 mars. Je vous mets toutes les infos sur le site de France Inter.
Et la prochaine fois, Zazie, quand vous faites ce genre de reportage, vous m'embarquez, non?
Déjà, moi, je vais me faire réinviter, apparemment. Et après, s'il y a une petite place pour vous, je vous embarque.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce magnifique voyage dans la famille de Minou Sabahi. D'ailleurs, chez vous, Rochane et Feridoun, la cuisine a aussi été une affaire de femmes. Rendons hommage à votre maman, Rochane, malheureusement disparue.
Absolument, merci beaucoup François-Régis. Ouais, je tenais à dire quelques mots, en l'occurrence, effectivement, concernant ma maman. Ça m'a fait penser le fait que Minou parle effectivement de sa mère. Sachant que vraiment, je dirais, l'élément central de ce livre, cette notion de transmission familiale, ben, ça vient de ma maman. Au tout départ, notamment suite à son décès, il y a un peu plus de 5 ans de cela, sachant que ma maman, elle vouait une véritable passion pour la cuisine. Elle était capable de cuisiner comme ça pendant des heures, voire des jours, pour la famille, pour les amis, avec des repas gargantuesques, avec beaucoup de talent, beaucoup de générosité. Et au moment de son décès, je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir pensé à lui demander de nous transmettre, de rédiger quelques-unes de ses recettes. Et c'est là où on a vu notre papa effectivement être capable de cuisiner avec le même talent, la même générosité, nous régaler également toute la famille et les amis. Et là, je me suis dit, on ne va pas faire la même erreur une deuxième fois. Et c'est là que je lui ai dit, rédige-nous quelques-unes de tes recettes, envoie-les par email, c'est ce qu'il a fait. Et c'est de là qu'est venu quelque part ce livre, qui encore une fois est un témoignage d'attachement pour moi, à ma famille, à mes origines, en même temps d'être un recueil de recettes qui gagne à être connu, je pense.
Merci Rochane. Et le titre de votre livre est important. Cuisine familiale d'Iran, c'est une histoire de famille. Vous allez nous en faire une nouvelle démonstration dans un instant avec un ragoût que j'ai vraiment hâte de goûter, Feridoun. On va pas tout à fait dire ce que c'est, mais donnez-nous quand même l'intitulé en persan.
En fait, ça s'appelle Fesenjan, ça veut dire c'est un ragoût qui est fait avec de la poudre de noix.
Eh bien, on va goûter ça dans un instant. On va aussi, grâce à Manon, goûter une... version étonnante d'un riz sucré d'inspiration plus ou moins iranienne. C'est ce qu'on va voir.
J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous. Jean, on est connu des plus forts que vous. Jean, n'est connu des plus beaux que vous. Jean, n'est connu, mais il n'était pas vous. Jean, j'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. Jean, tant d'ici votre rire d'argent qui scintille idyllique et charmant. sale, capitonné, Jean. Vous ne cessez de m'étonner, Jean. Mais assez de vous voir tout donner. Jean porterait sur l'île déserte, Jean. Le dessin de votre silhouette, Jean. Tracerait les contours dans ma tête. Jean, j'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. Évidemment. Jean, tend ici votre rire d'argent qui scintille idyllique et changeant. Et oui, Jean. Jean, de tout ça, vous ne savez rien, Jean. Terre ici comme un petit chien, Jean. Mon secret tout au fond du jardin. Jean, est-ce la ligne de votre cul, Jean? Ou vos yeux qui m'ont convaincu, Jean, que la vie vaut d'être vécue?
Jean, de Jeanne Chéral.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Voyage au cœur des marmites iraniennes avec nos deux invités du jour, Feridoun et Roshan Garagedaghi, auteur de Cuisine familiale d'Iran, les carnets de recettes d'une famille perse chez Solar. Ça réagit sur les réseaux sociaux de notre émission avec quelques questions que je me permets de vous adresser. Question de Marc, Paris 11e. Quelle boisson, alors ça c'est intéressant, quelle boisson accompagne un repas en Iran?
C'est dramatique, ouais. En fait, la boisson la plus populaire, c'est ce qu'on appelle dour. C'est donc avec du yaourt et de l'eau salée. Mm-hmm. L'eau peut être pétillante ou pas. Mm-hmm. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ancien. Et à part ça, à une époque, comme ici ou ailleurs, il y a eu le Coca-Cola, le Pepsi-Cola, il y a eu ce genre de choses qui sont devenues aussi populaires, sinon plus.
Ah, carrément, les sodas.
Ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'effectivement, c'est pas génial comme...
Bien sûr.
Il y avait une époque très ancienne, il y avait le vin, et puis la vodka, etc. Même tout ça, c'est fini.
Il paraît que vous êtes aussi des grands buveurs de thé.
Ah oui, bah, oui j'allais dire, il y en a beaucoup qui boivent du thé en mangeant, tout simplement, hein, qui accompagnent ça de thé, ouais.
Manon ?
Il y a un film qui est sorti, mais Les graines de figuier sauvage, que j'ai vu il n'y a pas longtemps,
oui, j'ai vu.
Où il y a des scènes autour du thé. Il n'y a pas beaucoup de scènes de repas, mais il y a des très belles scènes autour du thé.
Et c'est un thé comment ? C'est un thé noir ?
C'est noir.
Oui. Effectivement, il y a du thé qui vient d'Inde aussi, Darjeeling qui est très connu, Ceylan qui est très connu, mais il y a aussi une culture régionale qui est en faible quantité, mais c'est essentiellement maintenant, ça vient d'ailleurs, hein, donc le thé.
Juste au niveau des boissons, je voulais juste rappeler qu'en Iran, il y a une culture très très ancienne autour du vin. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le livre, on a pensé à mettre un encart justement thématique pour rappeler que dans toute la poésie persane, la poésie très ancienne, le vin était célébré à tour de page. Et bon, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu rigolo.
Enfin, vous savez que le cépage qu'on appelle ici la Syrah, que dans d'autres pays, on l'appelle Shiraz. Shiraz,
c'est le nom d'une ville
iranienne. Une ville où il y a des vignobles autour. Il y en avait beaucoup, mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Mais donc, certains disent que, en fait, ce cépage vient d'Iran.
Et voilà.
Alors, c'est une hypothèse.
Et puis enfin, il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui voudraient se frotter aux saveurs iraniennes à Paris ou en France, le nom d'un ou deux restaurants.
Ça, c'est... Ça, c'est
aïe. Moi, j'ai un faible pour un restaurant que j'aime bien à la fois pour les plaques, pour, disons, sa direction, la patronne. C'est, ça s'appelle Cheminée, qui est rue des Entrepreneurs.
Paris 15e, Cheminée.
Cheminée.
Très bien.
Rojane. Si je peux en donner deux, ce qui me concerne, il y a bien sûr l'incontournable Mazé. Moi, je le cite parce que c'est vraiment le pionnier.
Sam Tavassoli.
C'est absolument. C'est le pionnier, et on l'a connu dans les années 80. C'était son papa à l'époque, qui tenait un tout petit traiteur rue des Entrepreneurs. Et je me souviens avec émotion, on allait en famille manger un sandwich là-bas. Donc, il faut lui rendre hommage. Et puis... deux copains d'enfance qui ont ouvert Namak dans le 9e arrondissement, qui est un peu une cuisine revisitée, là, pour le coup, mais super dynamique, super sympathique et qui
Namak,
gagne aussi.
Namak, vous l'écrivez comment ?
Namak, comme N-A-M-A-K. Ka, qui veut dire sel en persan.
On va vous indiquer cette salve de bonnes adresses parisiennes pour déguster les saveurs iraniennes sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Allez, on passe à un autre pilier de la cuisine iranienne, ce sont ce qu'on pourrait appeler les plats braisés ou les ragouts. J'oserais pas m'aventurer dans la prononciation de...
Khoresh.
Khoresh, alors ça désigne, c'est le nom générique qui désigne les
plats
mijotés.
Ça veut dire des ragouts, comme un peu chez les Marocains, il y a des tagines, il y a toute une famille de tagines. Et chez nous, peut-être il y en a encore plus chez nous, parce que bon, il y a beaucoup de régions en Iran. Dans ce bouquin-là, il y a une douzaine de khoresh.
Absolument.
Et on les accompagne avec un riz blanc.
Et il y a celui-ci qu'il y a dans notre assiette.
Il y a ça, et puis les aubergines que vous avez écartées. Parce que c'est pas la saison.
Oui.
On a les c'est dessous de l'émission.
Là, je vous ai censuré, je suis désolé.
Mais ça, à tous les coups, les Français aiment ça.
C'est étonnant parce qu'on est en train de goûter.
Ouais.
Et c'est très déstabilisant comme sauce.
Et c'est en même temps, mais...
C'est très difficile de savoir ce qu'il y a dans la sauce.
C'est acidulé. Il y a le côté acidulé, il y a le côté hyper enveloppant, comme pourrait l'être un mafé, mais il n'y a pas du tout de cacahuète.
Il y a aussi une rondeur et une profondeur.
Ouais, il y a le côté
peut-être de la mélasse, quelque part, avec de... Non, il n'y a pas de...
Sirop grenade.
Ah, grenade, c'est ça qui donne le côté acidulé et enveloppant.
Il y a sirop de grenade, ça c'est vraiment essentiel. Oui, mais il y a bien d'autres choses.
Alors, redonnez-moi, s'il vous plaît, le nom en iranien de ce plat qui est un ragoût. Précisons qu'il s'agit de canard.
Fesenjan.
Alors on peut remplacer le canard par du poulet. Hein.
Fesenjan.
Fesenjan.
Et alors le principe, effectivement, je crois que vous avez identifié ces notes acidulées.
En fait, c'est un repas à base de, effectivement, poudre de noix, sirop de grenade. Et j'ajoute, pour ce repas, certains le font, un peu de jus d'orange. Hein. Et puis il y a des épices, les quatre épices. Dedans.
Qu'est-ce que c'est bon. Avec une sauce très onctueuse.
Oui.
Et visuellement, on dirait presque une sauce de gibier. C'est
exactement.
Une sauce brune, en fait.
Donc, presque un bourguignon foncé ou un civet, effectivement. Ouais.
Et la couleur vient du sirop de grenade, hein, qui est noir.
Sirop de grenade, jus d'orange, poudre de noix, un peu de curcuma aussi, c'est ça?
Curcuma, effectivement, dans tous les khoresh, j'utilise le curcuma.
Un grand merci pour ce plat absolument génial à retrouver dans votre livre et qui va avoir, j'en suis sûr, énormément de succès auprès de nos auditeurs et nos auditrices. Ferry et Rochane, attachez vos ceintures parce que vous allez écouter une version totalement décoiffante de votre riz avec Manon Fleury.
France Inter. On va déguster.
Grâce à votre livre, j'ai pu développer ma connaissance du riz. Donc, comme beaucoup, j'adore cet ingrédient qui ne laisse jamais indifférent malgré son apparente simplicité. Le riz, c'est simple, ça se trouve partout, ça se cuisine assez facilement et en même temps, ça nous transporte à chaque fois dans des cultures culinaires multiples. Des différents pays d'Asie, bien sûr, mais aussi l'Espagne ou l'Italie. À chaque fois, le riz apparaît comme un formidable support à histoire et à imaginaire. C'est la raison pour laquelle j'y pense très souvent et je continue de chercher comment intégrer de manière originale cet ingrédient au menu de mon restaurant d'Atil. Comme j'ai déjà travaillé sur les riz pochés et les soupes de riz, j'étais depuis quelques temps à la recherche d'une version croustillante du riz. Je trouve qu'ainsi travaillé, il prend une dimension tout à fait différente et totalement addictive. Pour nous, Français, riz et croquant ne vont logiquement pas ensemble, mais en fait, c'est très très bon.
Ah ouais.
Proche de nous, j'avais envisagé la paella avec ce qu'on appelle el socara, c'est-à-dire la pellicule de riz croustillante et imbibée de suc qui se forme au fond de la casserole en fin de cuisson de la paella. Le nom socara voulant dire « brûlé » en langue valencienne.
Ah.
Mais grâce à votre livre, j'ai pu trouver d'autres méthodes pour réussir à réaliser un riz croustillant. Vous dédiez en effet un chapitre tout entier aux plats à base de riz dans la cuisine iranienne. Vos recettes sont très claires et on arrive très bien à comprendre comment il faut s'y prendre. On retrouve notamment cette version croustillante du riz, on parle ici du tadig, comme vous l'avez aussi entendu dans la chronique de Zazie, qui veut dire littéralement fond de casserole, c'est-à-dire la croûte croquante qui se trouve au fond de la casserole. Mais... Et c'est ce qui est formidable, puisque vous retournez le riz sur une assiette, le tadig forme en réalité le dessus, si appétissant de vos plats à base de riz. Vous expliquez que les différents types de cuisson de riz aboutissent tous à la formation du tadig. Mais vous nous proposez une recette encore plus précieuse, selon moi, celle du tachin. La recette du tachin a la particularité d'être conçue pour fabriquer intentionnellement la texture croustillante du tadig grâce à un mélange de riz yaourt, jaune d'œuf et safran, au lieu d'attendre que la cuisson produise toute seule ce résultat. Vous préparez cet appareil en associant les ingrédients que vous mélangez au riz déjà cuit. Pendant la cuisson au four, la caramélisation des protéines contenues dans le yaourt et dans l'œuf va créer une croûte dorée très belle et très parfumée. Alors, une fois qu'on a compris avec Lorraine, la chef de Datil, après pas mal d'essais, comment arriver à ce tajine, on a eu envie d'emmener la recette autre part. Le côté croustillant nous a donné envie d'aller vers une logique de galette où finalement, on ne consommerait que la croûte dorée du riz. Et donc, on s'est aperçu que la meilleure solution pour la cuisiner, c'était de se servir d'un appareil à gaufres. Comme ça, non seulement on produit intentionnellement du tadig, mais en plus, il ressort en gaufres qui sont prêtes à être dégustées telles quelles. Pour ce faire, je vous propose de réunir 300 g de riz basmati, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de yaourt, une pointe de pistil de safran et 50 g de beurre fondu. Parallèlement, vous pouvez réaliser un sirop parfumé à l'eau de rose qui va venir imbiber et parfumer nos gaufres. Pour le riz, il faut bien le rincer 3 fois à l'eau claire, puis le cuire dans un grand volume d'eau non salée, pendant 8 minutes environ. Il faut ensuite égoutter le riz et le faire refroidir. Puis vous allez torréfier les pistils de safran. Vous mélangez ensuite ensemble le jaune d'œuf, le yaourt et le safran. Vous ajoutez cette crème de riz cuit et vous mélangez bien pour obtenir une sorte de liaison. Puis vous ajoutez 2 cuillères à soupe de sirop pour légèrement le sucrer. Il ne vous reste plus qu'à chauffer votre gaufrier, beurré généreusement afin d'éviter que la gaufre ne colle. Ajoutez le riz en remplissant l'intérieur du moule généreusement. Fermez le gaufrier pendant au moins 15 minutes. Vous allez obtenir une gaufre de riz bien croustillante et dorée que vous allez immédiatement badigeonner de sirop à l'aide d'un pinceau. Servez chaud et déguster sans attendre. Vous goûterez alors un objet assez non identifié, mais absolument délicieux, qui tire profit de la rencontre que je trouve formidable entre le riz, le yaourt, l'œuf et le safran.
Oh là là, mais c'est même carrément addictif. Moi, je me suis enfilé toute cette gaufre de riz, bien croustillante, sucrée, parfumée, avec cette note de safran. C'est un vrai truc, ça.
Vous l'avez publié.
Et bien, justement, la recette de Manon est sur franceinter.fr à la page. Est-ce qu'elle a un petit nom, cette recette de gaufre de riz, Manon?
Je l'ai appelée gaufre au safran et à la rose.
Je pense qu'elle a du potentiel, cette recette, parce qu'on est dingue de tadik, de façon générale, hein, nous les Iraniens, et les non-Iraniens aussi. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, on va tous se battre à chaque fois pour avoir la dernière portion.
Dernière petite question, vous y répondez en une ou deux phrases. Le statut des desserts dans la cuisine iranienne, on mange sucré, alors on l'a vu évidemment avec les petites bouchées magnifiques que nous a apporté Zazie, mais globalement, on mange des desserts à la fin d'un repas ou pas?
Mon vécu, c'est de dire on mange plutôt des fruits plus facilement, et notamment en été, des pastèques, des choses qui désaltèrent un peu et tout ça. Les desserts, ça va être plutôt, ou les sucreries, quelque chose qu'on va manger au cours du goûter, ou tout ça, des confiseries, plus de cet ordre-là que des pâtisseries, à proprement parler.
D'accord, donc c'est plutôt
le sucre. Si mon père fait un baklava absolument délicieux.
Il est aussi question de baklava en Iran.
Mais ça, c'est différent. Hein. On utilise beaucoup la cardamome et l'eau de rose.
La recette de baklava iranien dans votre livre, qui s'impose d'ores et déjà comme un livre référence sur la cuisine perse, cuisine familiale d'Iran, les carnets de recettes d'une famille perse, Feridoun et Roshan Garagedaghi, chez Solar. Un grand merci à vous d'avoir ensoleillé notre plateau autour des cuisines iraniennes. Dimanche prochain, attention, une émission entièrement consacrée à la meringue. Comment on dit au revoir en iranien?
Khodafes.
Et à dimanche prochain?
On le dit pas.
Ah. À dimanche prochain.
Parmi des didales, yekshanbe yoyan. C'est long, oh là là.
Si vous avez encore faim.